Bonsoir, heureux de vous retrouver sur le plateau des informés de France Info, 20h, 21h, à la radio, à la télévision, sur le canal 27 de la TNT, sur les réseaux sociaux, vous le savez également, sur franceinfo.fr. On va débattre de toute l'actualité de ce dimanche, mais pas seulement. Nos informés ce soir autour de cette table sont François Nenwang. Bonsoir François.
Bonsoir.
Rédacteur en chef au journal La Croix, notre partenaire à vos côtés. Un petit nouveau dans ces informés. Bonsoir Carl Olive.
Bonsoir Pierre.
Ancien journaliste. Aujourd'hui, vous êtes maire Les Républicains de Poissy. Et je précise que vous co-signez un livre, Rendre possible l'impossible, aux éditions Ballan. On en parlera dans cette émission Les Informés. En face de vous, sur ce plateau, bonsoir Virginie Leguet.
Bonsoir.
Chef adjoint du service politique de Paris Match. Et puis à vos côtés, David Boëry. Bonsoir David.
Bonsoir Pierre.
Journaliste au service économie et sociale de France Télévisions. Alors au sommaire de ces informés du dimanche, la rentrée politique de Marine Le Pen à Fréjus cet après-midi. Elle engage la campagne du Rassemblement National pour les Européennes. Elle cible Emmanuel Macron, l'immigration et l'Union Européenne. Dans ces informés de France Info, on parlera de ce bras de fer entre l'Élysée et le Sénat avant l'audition d'Alexandre Benalla mercredi. Les sénateurs qui sont appelés à respecter la séparation des pouvoirs. Et puis on débattra de la place de la voiture dans nos villes. À Bruxelles comme à Paris ce dimanche, il fallait laisser les voitures au garage pour améliorer la qualité de l'air. Et tout d'abord, pour ouvrir ce débat, j'aimerais vous faire écouter cet échange qui fait le buzz ce dimanche sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. On est hier après-midi dans les jardins du Palais de l'Élysée. Ce sont les journées européennes du patrimoine. Il y a beaucoup de monde. Il y a le président de la République qui s'adresse aux visiteurs et qui s'entretient notamment avec ce jeune homme. C'est un demandeur d'emploi.
Vous faites rien. Mais attendez, vous êtes inscrit à Pôle emploi?
Ouais.
Mais vous voulez travailler dans quel secteur?
Horticole, et j'ai envoyé partout dans les mairies, ils prennent pas.
Si vous êtes prêt et motivé, je veux dire. Dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais où ils me disent pas qu'ils cherchent des gens. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler.
Virginie Leguet, Paris Match, le président de la République qui dit à ce jeune homme, du boulot, il y en a, même si c'est pas dans l'horticulture, il y en a partout, traverser la rue, on va vous en trouver, du boulot.
Oui, il donne des exemples, l'hôtellerie, la restauration, le bâtiment, il lui dit de traverser la rue, il lui dit même que s'il veut, il peut traverser lui-même la rue pour en trouver un. Je dois dire, moi, que au fil des mois, ces petites phrases d'Emmanuel Macron dressent de lui un portrait finalement peu sympathique, peu bienveillant vis-à-vis des Français, peu compréhensif. Il a l'air de penser que parce qu'à lui, tout a réussi, et c'est vrai, tout a réussi de façon formidablement rapide et brillante, et que c'est un garçon certainement formidablement rapide et brillant, il est absolument incompréhensif que des gens qui ne trouvent pas de travail aujourd'hui n'en trouvent pas. En fait, voilà, c'est ça. Pour lui, c'est ils y mettent de la mauvaise volonté, ils font pas ce qu'il faut pour ça, ils restent paresseusement chez eux, il les a traités de feignants il y a quelques mois, encore avant, il leur a conseillé de faire la route 45 km, mais là, il s'adressait à des gens qui vivaient dans une région où faire 45 km, ça prenait quasiment une heure et demie de temps parce que les routes étaient minuscules. Enfin, il y a quelque chose qui lui manque, de l'ordre, tout simplement, de la bienveillance. Et c'est embêtant parce que si on veut entraîner les Français derrière soi, si on veut les faire adhérer à un vrai programme de réforme et de transformation, là, il y en a des sérieuses qui s'annoncent, mais il faut quand même un petit peu les aimer.
Carl Olive, vous qui avez été journaliste, qui êtes toujours journaliste dans l'âme, vous êtes passé de l'autre côté aujourd'hui, vous êtes élu Les Républicains de Poissy, vous êtes maire. C'est difficile de tenir un langage aujourd'hui quand on est sans arrêt sollicité par les journalistes, par les élus. Alors c'est un dérapage, c'est une petite phrase de trop?
Si j'ai bien entendu au départ, le jeune dit « j'ai eu beau envoyer des courriers et des lettres de motivation et des CV, j'ai jamais eu une réponse à mes emplois ». Autour de la table, vous êtes nombreux à avoir été recrutés sur une lettre de motivation ou un courrier? Non. La vérité, c'est qu'il a raison, le président. Il y a du boulot. Il y a du boulot.
Oui, mais là, c'est...
Attendez, dans le département...
Sa formation, c'est l'horticulture.
Il y a 22 000 emplois qui sont non pourvus. Alors oui, le jeune a raison. Il faut les lettres de motivation. Il faut les CV. C'est utile, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Vous l'avez dit, quand j'étais à Canal+, j'ai embauché 80 jeunes entre 18 ans et 25 ans, mais pas sur leur lettre de CV, pas sur simplement une lettre de motivation. C'était presque une sélection naturelle à l'embauche, et je pense que c'est le message qu'il faut entendre.
Bon, mais pardonnez-moi, ces jeunes, ils sont venus vous voir comment? Vous n'avez pas été les chercher dans la rue?
Ils sont déplacés.
Oui, mais
ils se sont déplacés.
Mais
Virginie,
vous avez envoyé une lettre, vous avez envoyé quelque chose
avant. Ils se sont déplacés.
Donc un CV.
Moi, ce que je reproche simplement, c'est que ces jeunes-là ne se déplacent plus. Il faut qu'il se déplace. Moi, je vais vous dire, quelqu'un vient me voir dans ma collectivité me dire « j'ai envie de travailler dans votre collectivité », il vient travailler dans la collectivité, mais j'ai envie de moi savoir si réellement il a envie de bosser.
Mais donc, ils vous ont quand même envoyé d'abord une lettre et un CV.
Et ils se sont déplacés.
Oui, ensuite, en deuxième temps.
Quand il y a 22 000 emplois non pourvus dans le département de Vivid, il faut peut-être se poser les bonnes questions.
Je vais essayer de passer la parole à David Boyeri, France Télévisions.
Bon, non, mais après, il peut toujours y avoir un débat sur comment on compte et comptabilise les emplois non pourvus, etc. Sur le fond, il a sans doute raison d'expliquer qu'il y a aujourd'hui des secteurs qui recrutent, mais c'est la façon dont il le dit, c'est le ton qu'il utilise et... c'est franchement très condescendant de donner comme ça publiquement une leçon à quelqu'un qui est sans doute en recherche réelle et qui n'arrive pas à trouver un emploi. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est de voir quelle a été ensuite la réaction des secteurs concernés, que ce soit l'hôtellerie, la restauration ou le bâtiment. Vous avez des gens qui vous répondent « Oui, effectivement, on cherche à recruter des gens, mais ça ne veut pas dire que c'est la porte ouverte et que n'importe qui traverse la rue se retrouve demain serveur ou cuisinier. » Parce que bon, je veux dire, même si ce sont des secteurs qui recrutent, il faut un minimum de formation, de connaissances pour exercer ces métiers-là. Donc, du coup, c'est pas une bonne idée.
François Hernenwein Lacroix, il y a un sondage Kantar Sofres qui sort ce soir. Il y a un véritable désaveu des Français vis-à-vis du chef de l'État. 19% seulement jugent son bilan positif. 4 Français sur 5 sont déçus.
Mais c'est pas à cause de cette petite phrase. Cette petite phrase est le symptôme peut-être d'une conception du pouvoir qui me semble assez bizarre. Parce qu'on va dire une évidence, je crois connaître de nombreux jeunes qui ont traversé la rue et qui n'ont pas trouvé de boulot en passant la rue. Cette question-là, c'est une façon un peu nonchalante de regarder les difficultés des gens.
On va refermer cette parenthèse et puis on va ouvrir la parenthèse politique avec le Rassemblement National. Marine Le Pen, un discours de 50 minutes cet après-midi à Fréjus. On voit ça dans un instant. Mais avant, l'essentiel de l'info à 20h10 avec vous, Léo Téchère.
Les sénateurs La République En Marche rangés du côté du gouvernement dans la bataille entre l'exécutif et le Sénat à propos de l'audition de Benalla mercredi. Ils ne siégeront pas à la commission d'enquête. Elle outrepasse ses fonctions selon le sénateur de Côte d'Or François Patria qui pense que ses collègues veulent affaiblir le président Emmanuel Macron. La fête de l'humanité se termine ce soir à la Courneuve. Grand succès sous le soleil cette année avec des centaines de milliers de festivaliers. Et Ahed Tamimi, cette jeune icône de la résistance palestinienne invitée d'honneur ce week-end. Elle s'est adressée à Donald Trump cet après-midi, lui signifiant que Jérusalem restera la capitale de la Palestine. C'est le plus gros typhon de l'année et il souffle en ce moment sur le sud-est de la Chine. Déjà 2 morts après avoir fait trembler les gratte-ciels de Hong Kong. Les Philippines, elles, cherchent désormais des survivants. Le cyclone tropical y a fait au moins 59 morts dans cet archipel. Kevin Mayer, recordman du monde de Décathlon au Décastar de Talence ce soir en Gironde, 9126 points, c'est 81 de plus que le précédent record. Le Français prend là sa revanche sur ces championnats d'Europe ratés. Et puis ce sera la revanche là aussi, France-Croatie, pas du foot mais du tennis, les Croates qualifiés en finale de Coupe Davis au bout du suspense contre les États-Unis. La finale aura lieu du 23 au 25 novembre en France et peut-être une nouvelle fois à Lille.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
Marine Le Pen faisait sa rentrée politique cet après-midi à Fréjus. 50 minutes d'un discours devant les cadres du parti, le Rassemblement National. Marine Le Pen qui a dressé un bilan négatif de l'action du président de la République et qui a dénoncé la soumission, je cite, du président Macron à Bruxelles et sa folle politique immigrationniste. L'immigration, la submersion migratoire, ce sont là les mots qui sont revenus le plus souvent dans la bouche de Marine Le Pen. On écoute un extrait de son intervention.
Non seulement nous vivons une submersion, mais une submersion honteuse et silencieuse. Ce qui domine dans cette affaire, tout d'abord, c'est la légèreté de décisions administratives inconsidérées, irréfléchies, irresponsables. C'est le mépris par les pouvoirs publics des équilibres démographiques objectifs. C'est le mépris des gens. C'est le mépris de l'identité de nos pays sacrifiés à une folle vision idéologique. Cela se résume en une formule, Aujourd'hui, l'État joue contre la nation.
L'État joue contre la nation. Marine Le Pen, qui a plusieurs reprises, François Hernenwein, dans son discours, a parlé de submersion migratoire. Ces mots, submersion migratoire, on va les retrouver pendant les 8 mois qui viennent,
ben,
d'ici le 26 mai.
On a sans cesse glosé autour Front National, Rassemblement National, changement à l'occasion de la présidentielle, etc. Au fond, ce qui se passe avec le Rassemblement National, c'est comme toujours avec le Front National, il y a des périodes où le discours est un peu plus social. Là, ce discours, il incluait tous les fondamentaux qui ont fait la prospérité de son père et sa prospérité relative à elle. L'immigration, la sécurité, les deux thèmes qu'elle martèle, on constatera que pour les déclassés, elle n'a pas beaucoup de mots. C'est-à-dire que le discours est toujours le même. Les gens qui vivent des difficultés sociales, qui ont du mal, etc. C'est la faute à l'immigration. Cette rhétorique, elle l'avait abandonnée un temps, légèrement. Maintenant, elle revient sur le socle. Mais ce socle, elle devrait réfléchir quand même en citant ses glorieux voisins, ceux qui ont réussi en Italie ou ailleurs. La coalition italienne a été élu avec des engagements. Pour l'instant, la dimension sociale, toute la partie sociale du programme de la coalition italienne est passée aux oubliettes.
Parce que le pays est terriblement endetté.
Et voilà, mais en tous les cas, donc, on voit bien la faiblesse de ces promesses, puisqu'on ne peut pas les tenir.
Oui, David Boyeri, France Télévisions.
Mais justement, je pense que c'est aussi lié à l'enjeu plus global de ces élections européennes, parce qu'on voit bien se dessiner dans l'ensemble des pays une sorte de coalition qui essaye de se monter, alors je ne sais pas comment les appeler, entre les populismes européens, entre les partis extrêmes dans les différents pays. Et donc c'est ça qui, a priori, de ce que j'ai compris de son discours, la pousse à avoir un discours encore plus virulent. Parce que le véritable enjeu qu'il y a derrière, c'est de savoir si l'ensemble de ces partis, en Italie, en Autriche, ou en Hongrie et en France, vont arriver à une espèce de, alors on dit minorité de blocage, enfin d'être une force capable de peser sur le Parlement européen.
Mais on voit bien qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. La politique migratoire d'Orban heurte les intérêts italiens, etc. C'est plein de contradictions, ce mélange.
Exactement, mais il se retrouve juste sur dénoncer la politique actuelle et dénoncer un flux migratoire incontrôlé.
Carl Olive, maire de Poissy, maire Les Républicains de Poissy, ce discours de Marine Le Pen, l'Union Européenne, c'est la cause de tous nos maux.
Je rejoins ce que dit David, et je vous cache pas, je suis inquiet. Il est jamais trop tôt, il est souvent trop tard. On est quasiment à 9 mois avant l'élection. Elle est déjà au taquet, prête à bondir, avec les curseurs dont parlait à l'instant François, l'immigration et la sécurité. Il y a 20 ans, c'était le même sujet, et ça fonctionnait.
En sauvagement de la société, notamment,
oui, et aujourd'hui,
c'est France orange mécanique.
25% en 2014, ça va être encore une fois un défouloir. Où je suis inquiet, c'est que par défaut, la nature ayant horreur du vide, à droite comme à gauche, il n'y a pas de réponse par rapport à cela, en tout cas aujourd'hui. Je dirais même qu'il y a une désorganisation. Il y aura le temps de l'organisation et ensuite le temps de la réaction par rapport à ce qu'indique Mme Le Pen aujourd'hui.
Virginie Le Guay, est-ce que ces élections européennes peuvent relancer Marine Le Pen qui a complètement raté le second tour de la présidentielle? Elle compte là-dessus?
Elle compte, je dirais que Marine Le Pen, elle prend Emmanuel Macron au mot. Emmanuel Macron, il y a quelques semaines, il s'est présenté comme le premier opposant face aux nationalistes. Elle dit, ben parfait, je suis face à Emmanuel Macron, ce qui d'une certaine façon la met en selle, lui donne de la stature, lui redonne une visibilité politique. Donc là, elle n'a pas eu beaucoup d'efforts à faire pour se remettre exactement là où le président avait décidé de la mettre et pour engager la partie avec lui. Et les sondages sont très nets.
Alors, elle est portée justement par le dernier
elle
sondage,
est à un point, voilà.
Odoxa Dengsu Consulting pour France Info, notamment, avec 21,5% des intentions de vote pour le parti présidentiel, La République En Marche, 21% pour le parti de Marine Le Pen, Rassemblement National.
Donc en prenons des thèmes qui sont très propices au Front National, aujourd'hui devenu Rassemblement National. Elle joue sur du velours, elle le sait très bien. Mais elle sait aussi que les électeurs, en général, profitent des élections européennes, qui cette fois-ci seront les premières élections depuis l'avènement d'Emmanuel Macron à l'Élysée, profitent des élections européennes pour se défouler. Donc s'ils sont pas contents, mais c'est impatients, pas très mobilisateur, frustrés.
Les élections européennes, il y a beaucoup d'abstention.
Donc elle va leur parler d'immigration.
Mais, c'est un défouloir.
Mais ils vont se défouler quand même et ils vont se tromper d'élection. Elle va les aider à se tromper d'élection. Parce que les électeurs vont penser. Elle l'a dit d'ailleurs dans son discours, elle a dit avec moi, il n'y aura pas d'Aquarius qui s'arrêtera en France. D'abord, il ne s'est pas arrêté en France, l'Aquarius, déjà, première faute. Et en plus, avec elle qui va faire partie de l'Europe, c'est pas elle qui va empêcher quoi que ce soit. Donc elle est déjà en train de tromper les électeurs sur la finalité même de cette élection. Mais à la limite, peu importe, les électeurs qui vont voter pour elle, ils voteront pour elle pour des raisons de mécontentement, de frustration, de colère. Et il se pourrait bien qu'elle arrive de nouveau en tête, alors, comme elle l'est arrivée en
2014,
tête en 2004.
24,8% aux élections européennes, elle est en tête.
24,86%, voilà. 24 sièges. Et elle est en tête.
Oui, non, mais, d'ailleurs, en fait, c'est vrai, parce qu'on voit bien que dans le discours, quand on écoute bien, c'est le refus de la politique actuelle. C'est, alors, même si d'ailleurs sur le fond, on peut douter que l'Europe ait réellement une politique migratoire, parce que c'est sans doute ça le problème de base aujourd'hui dans l'Union européenne, des pays qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Mais après, une fois qu'on a dépassé ce refus, on voit pas très bien quelles sont les alternatives et les solutions qui sont proposées. C'est juste de dire non, on n'en veut pas, mais on fait quoi demain? Mais donc,
c'est tout le sujet. Moi, je suis partisan de la construction européenne, etc. Je pense qu'elle a apporté la paix et la prospérité. Mais actuellement, ceux qui se cambrent pour défendre l'Europe le font de manière curieuse. Aujourd'hui, ils n'y arrivent pas. Les gouvernements européens, pro-européens, n'arrivent pas à avoir un discours constitué pour affronter la vague populiste. Ils n'ont pas de politique claire et déterminée pour mener le combat. Il suffit pas, de manière incantatoire, de crier « l'Europe, l'Europe, l'Europe ». Il faut que cette Europe ait un contenu. Et le défi des populistes, c'est, pour tous ceux qui veulent s'opposer à eux, c'est d'être créatif. Ça a été dit tout à l'heure par Karl, assez justement. C'est le vide en face. Enfin, en tous les cas, c'est pas très rempli.
Un petit mot de conclusion.
Et c'est ce besoin-là qui se fait sentir aujourd'hui. On peut espérer
que les opposants arrivent à construire un vrai discours.
Mais 30 secondes de conclusion.
Je voulais juste dire que Marine Le Pen va absolument s'appuyer sur tous les populistes français et est en train de faire diffuser un tract sur lequel elle est en photo à côté de Salvini et qu'elle va axer toute sa campagne sur ce thème-là. Partout en Europe, nos idées arrivent au pouvoir. Et ça a quelque chose de libératoire pour les électeurs qui peuvent se dire « Mais c'est vrai, elle a raison. Il y a une vague. Faisons partie de cette vague qui va bientôt gagner peut-être un jour la majorité en Europe. Peut-être. »
D'où la présence des délégations autrichiennes notamment et hongroises cet après-midi.
Exactement.
À Fréjus.
Et si on parlait d'Alexandre Benalla au Sénat, nouveau sujet dans les informés de France Info dans quelques instants à 20h21. Maintenant, l'essentiel de l'info. Léo Téchère.
Et les piétons sont remontés sur les trottoirs ce soir à Paris. La journée sans voiture terminée dans la capitale. Elle a permis un recul du dioxyde d'azote de 28 à 35% selon Air Paris. 50% de circulation en moins selon la mairie qui renouvellera l'expérience dès le 7 octobre prochain, mais seulement dans ses 4 premiers arrondissements, comme tous les premiers dimanches du mois. La maire de Paris, Anne Hidalgo, aimerait de telles initiatives contre la pollution partout en Europe. Vous en parliez à l'instant, Marine Le Pen a déjà lancé sa campagne européenne à 8 mois des élections. La présidente du Rassemblement National faisait sa rentrée aujourd'hui dans le Var à Fréjus. Elle fustige la politique immigrationniste de Bruxelles qui, selon elle, soumet Emmanuel Macron. Une manifestation de médecins et d'infirmiers aujourd'hui en Syrie. Plus de 300 personnes rassemblées à Idlib pour protéger leurs hôpitaux régulièrement bombardés par le régime de Bachar al-Assad et son allié russe. Les blouses blanches appellent la communauté internationale à intervenir alors qu'une offensive terrestre se prépare contre la province rebelle. Un match fou ce soir en Ligue 1, 3 partout entre Bordeaux et Nîmes. Les deux équipes ont successivement mené au score avant de se laisser sur un match pas si nul que ça. Ce soir à Marseille, match de l'OM contre Guingamp à 21h. Et puis en Formule 1, Lewis Hamilton est intouchable. Il remporte son 7e Grand Prix de la saison à Singapour. Le Britannique creuse donc l'écart en tête du classement des pilotes. 40 points d'avance sur Sébastien Vettel à 6 courses de la fin de la saison.
France Info. Les informés, Pierre Neveu.
Et si l'homme de la semaine, c'était encore une fois Alexandre Benalla, ça n'est pas la question de ce débat ce soir, rassurez-vous, j'ai d'autres questions à vous poser. En revanche, parce que la ministre de la Justice, notamment Nicole Belloubet, est montée au créneau dans une tribune dans le journal Le Monde de ce week-end, où elle rappelle aux sénateurs le principe de la séparation des pouvoirs et les invite à ne pas empiéter sur le domaine judiciaire. Expliquez-moi, Virginie Le Guay, cette tribune, c'est juste une explication de texte ou ça va plus loin?
Moi, je peux pas expliquer les interventions, non seulement de Nicole Belloubet, dont ce n'est pas la première, parce que je l'ai déjà entendu avant cette tribune s'exprimer publiquement. Avant elle, il y a eu Emmanuel Macron, j'ai aussi entendu Christophe Castaner. Enfin, tout l'exécutif a l'air vent debout contre le travail de la commission d'enquête parlementaire, qui jusqu'à présent s'est déroulé extrêmement précisément, j'allais dire, dans les règles. Et je n'explique pas, moi, cette intervention et puis cette interférence entre l'exécutif et le législatif. Je trouve même ça même profondément choquant. En plus, que M. Benalla lui-même se permette de traiter les sénateurs de petites personnes et Philippe Bas de petits marquis, alors là, je m'interroge sur qui est la petite personne qu'on a vue le 1er mai sur la place de la Contrescarpe en train de tabasser du manifestant. Qui est cette petite personne de 27 ans qui occupait visiblement des fonctions très importantes à l'Élysée et qui aujourd'hui est autorisée à dire du mal de sénateurs, de commissions, de présidents? C'est quand même la représentation nationale dont il parle. Il n'a pas l'air de bien comprendre comment ça fonctionne une république en France.
Carl Olive, monsieur. Monsieur le maire de Poissy.
Moi, je vais vous donner la voix de terrain, ça nous fait un peu marrer. Hein. sur les marchés, on n'entend pas parler du tout de Benalla, hein. Mais pas du tout.
Bon, c'est une affaire journaliste, alors.
On sait, non, j'ai pas dit ça, mais on sait qu'il y a un souci et que sur la forme, c'est catastrophique, il faut le dire. Mais sur le marché, on entend parler de pouvoir d'achat, on entend parler évidemment de chômage, etc. Aujourd'hui, quel est le sujet? Monsieur Benalla doit être entendu. C'est lui-même qui a dit qu'il souhaitait être entendu. Le président de la République a dit que c'était grave et que c'était une trahison. L'enquête, la commission des lois, instruit à sa manière, sans entrer d'ailleurs dans le fond du problème, le sujet.
Ils ne jugeront pas les faits.
Exactement. Et pour aller plus loin, j'entends que l'avocat de Monsieur Benalla va peut-être demander le huis clos, mais qu'il le fasse. Il n'y a pas de sujet. On n'a jamais dit que la commission des lois, c'était quelque chose dans un amphithéâtre, etc. Et puis derrière, il y aura l'enquête judiciaire. Il n'y a pas de sujet. Mais qui viennent sur le terrain, je peux vous dire que c'est autre chose que du Benalla à longueur de journée. Hein.
François Hanenwein, Lacroix, notre partenaire.
Ils organisent tant bien que mal la défense dans un dossier où ils sont plutôt embarrassés. Du côté de l'Élysée, ce qui est très frappant, c'était la commission d'enquête du Sénat cherche à savoir quelles étaient les fonctions exactes de Monsieur Benalla à l'Élysée, ça fait partie de son travail, après ce qui s'est passé, place de la Contrescarpe et éventuellement ailleurs. Donc il y a rien à redire. Et puis après, sur le vocabulaire choisi, je vais dire deux choses. Le vocabulaire choisi par Monsieur Benalla est assez inquiétant et je comprends pas que ceux qui donnent des leçons de décence aux sénateurs n'en donnent pas aussi à Monsieur Benalla dans le choix des mots. Sur la question de la séparation des pouvoirs, Philippe Bas a été secrétaire général de l'Élysée, il sait très bien où est la bande passante, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Et en faire un petit marquis, c'est proprement scandaleux dans la bouche d'un blanc-bec. Je le dis en passant. Et dernier argument fondamental, si ça posait un problème aussi grave de séparation des pouvoirs, je pense que l'Élysée se serait arrangé pour empêcher Benalla d'aller devant le Sénat. S'il ne l'empêche pas d'aller devant le Sénat, il sent bien que juridiquement, le dossier n'est pas très bétonné sur la question de la séparation des pouvoirs.
David Boyeri, France Télévisions.
Moi, j'ai toujours pas compris d'ailleurs cette question de séparation des pouvoirs, parce que, je veux dire, des enquêtes parlementaires, il y en a toujours eu. Il y a eu plein de dossiers récents parallèle à une enquête judiciaire, il y a bien eu une enquête parlementaire. Et donc, axer, entre guillemets, la défense sur ce point-là montre qu'il y a vraiment un problème. Du coup, ça pousse plus à voir quel est le vrai problème sur le fond et à la limite d'être même plus curieux sur ce qu'il y aurait dans ce dossier.
L'argumentation est à tiroir si on regarde de près. C'est ne pas empiéter sur le pouvoir judiciaire, d'une part, et puis aussi que le Sénat ne s'arroge pas le droit à de juger la présidence de la République. Et les membres de la majorité rappellent sans cesse que c'est le gouvernement qui est responsable devant le Parlement et non pas
Sauf que très concrètement, l'enquête parlementaire, elle est très déterminée, elle est totalement cadrée. On sait très bien sur
sur
quelle position il sera interrogé. Après, je dirais juste en deux mots que j'ai trouvé surtout très inquiétante la première réaction de M. Benalla qui a dit qu'il n'irait pas à cette convocation parce que du coup, on a l'impression que c'est la seule personne en France qui n'était pas au courant qu'il n'avait pas le choix.
Bon, vous savez, je vous propose
c'est
de poursuivre.
Je vous propose de poursuivre
ce débat dans quelques instants parce qu'on est pressé par le temps. Tout de suite, le rendez-vous météo et l'info. On se retrouve dans 3 minutes.
France Info Trafic avec Calipage, toute la papeterie et toutes les fournitures scolaires. Votre succès commence par Calipage.
On fait un point circulation PC mobilité avec vous, Florian Cazola, avec toujours des problèmes de circulation ce dimanche soir en région parisienne, l'autoroute A13 notamment.
Sur la 13, effectivement, en direction de Paris, vous roulez au pas entre Morvan et Villennes-sur-Seine, comptez 35-40 minutes supplémentaires sur votre temps de trajet. Sur la 3, toujours en direction de la capitale, le trafic se fait un accordéon sur 10 km après l'échangeur 15 avec la 1. La 1 où c'est vraiment compliqué en ce moment, un accident au niveau de Falemplein entraîne plus d'une heure d'embouteillage dans le sens Paris-Lille. Au sud, sur l'A61, à noter une vingtaine de kilomètres de bouchons entre Narbonne et Trèbes en direction de Carcassonne. Et puis toujours ces ralentissements sur l'autoroute A7 entre Orange et Valence pour vous rendre vers Lyon.
France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants au grand confort d'écriture. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez tous les stylos pilotes sur pilotepen.fr.
On regarde la carte du ciel de ce début de semaine avec vous, Jean-Michel Goulinski, Météo France.
Un ciel souvent bien dégagé demain et des températures en hausse, sauf sur le bassin méditerranéen où les valeurs vont conserver le même niveau qu'aujourd'hui, de 28 à 30 degrés. Ceci en raison des nuages plus nombreux qu'ailleurs, donnant un ciel voilé de l'est du Rhône aux Pyrénées centrales en passant par l'Auvergne. Sous les entrées maritimes, le Languedoc et le Roussillon vont conserver un temps maussade une bonne partie de la journée. De la Corse aux Alpes, là le ciel instable va donner des averses orageuses, souvent plus marquées à proximité de la Corse. Et puis sur le reste du pays, le bleu va largement s'imposer avec des grisailles peu résistantes possibles en début de journée près de la Manche. Le tout dans des températures estivales de l'ordre de 25 à 31 degrés du nord de la Loire à la frontière allemande, 30 à 33 plus au sud, avec 33 prévus en Rhône-Alpes et près de la Garonne.
Merci d'avoir choisi France Info. Il est 20h30.
France Info.
De poids, ouvrez l'info.
Le retour de l'info avec Julien Langlais.
La rentrée politique de Marine Le Pen à Fréjus. La présidente du Rassemblement National a prononcé un discours offensif anti-Macron, anti-immigration surtout, et exhorté ses troupes à croire en la victoire aux élections européennes, galvanisée par le dernier sondage qui donne sa formation au coude à coude avec La République En Marche, galvanisée aussi par les succès électoraux de ses alliés européens en Italie, en Autriche ou en Hongrie. Marine Le Pen.
Il y a la soumission à Bruxelles encore et toujours. La soumission à Bruxelles et à sa folle politique immigrationniste. Aujourd'hui, les préfets n'ont plus qu'une seule activité, l'implantation des migrants. Acheminer les migrants par bateau, par avion, par car, les régulariser, les nourrir, les loger, les soigner, leur trouver des formations, leur organiser une priorité d'emploi. Pour cette folle politique qui exaspère une majorité de Français, là, il n'y a pas de problème. L'argent coule à flot. Les Français doivent savoir qu'un migrant mineur coûte 4 200 € par mois. Que l'AME, c'est-à-dire l'aide médicale aux clandestins, leur coûte 2 milliards d'euros par an. Tiens, 2 milliards par an. Ah, c'est drôle, c'est exactement le montant que propose Emmanuel Macron par an pour faire reculer la pauvreté. Sauf qu'on parle là de 8,8 millions de nos compatriotes qui sont sous le seuil de pauvreté.
La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, cet après-midi à Fréjus. Les 35e journées du patrimoine ont attiré ce week-end en France plus de 12 millions de visiteurs, une fréquentation similaire aux éditions précédentes. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a salué un des plus grands exploits de l'athlétisme français après le record du monde du décathlon décroché aujourd'hui par le français Kevin Mayer au décathlon de Talence. C'est une grande première pour un français. C'est le troisième athlète seulement à passé la barre des 9000 points, il a réalisé 9126 points. Vous reprendrez bien petit France-Croatie, et bien ce sera l'affiche de la finale de la Coupe Davis fin novembre en France. Après le succès des Français face aux Espagnols, ce fut très dur pour les Croates qui ont attendu le cinquième et dernier set du cinquième et dernier match pour battre les États-Unis et se qualifier pour la finale. En Ligue 1 de football, cinquième journée, elle se termine ce dimanche. 0-0 entre Nantes et Reims, 3 partout entre Bordeaux et Nîmes. Ce soir à 21h, Marseille recevra Guingamp. Et nous, on reçoit les informés de Pierre Neveu sur France Info. Il est 20h33, la deuxième partie, tout de suite.
Les informés, Pierre Neveu.
Les informés de France Info, la deuxième partie de cette émission de débat d'idées autour de l'actualité. On va continuer à débattre de cette affaire Benalla avec François Hernenwein du journal La Croix, avec Carl Olive, le maire Les Républicains de Poissy, avec Virginie Loguier de Paris Match et avec David Boyry de la rédaction du service économique et social de France Télévisions. J'aimerais sur cette affaire Benalla vous faire écouter le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau. Il était l'invité de l'émission CNews Europe 1 ce matin. Il a tenu à rassurer la majorité présidentielle. La commission sénatoriale travaille, elle n'ira pas au-delà de ses missions. On l'écoute.
Le Sénat fait un travail absolument rigoureux et méticuleux. Je ne comprends absolument pas l'hystérie qui est celle du pouvoir en place. C'est absolument stupéfiant. On a même accusé Philippe Bas, on l'a désigné comme étant une menace pour la République. Je comprends d'autant moins que c'est contre-productif.
Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat. Carl Olive, vous qui êtes élu Les Républicains, comment, quel est votre regard sur ce bras de fer, sur ce torchon qui brûle entre d'un côté le pouvoir exécutif et de l'autre côté les parlementaires, les sénateurs?
Pierre Neveu, vous avez vu sur vos images, on a vu le président Gérard Larcher. C'est un des personnages les plus respectés de notre République. Attention, comme le disait tout à l'heure François, traiter des sénateurs de petits marquis, il faut se méfier. Je pense que ça commence à courir sur le haricot auprès du président Larcher. Ça, c'est mauvais signe. Ça vient pas de moi, mais quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Là, ça fait quand même quelques mois que ça dure. Il va bien falloir, à un moment donné, qu'il se passe quelque chose. Mais attention à ne pas s'en prendre à des institutions, à des hauts personnages, comme peut l'être le président Larcher.
On a terminé ce débat sur...
Non, je voudrais juste rajouter une petite chose.
Parce que j'ai envie de parler de Paris Match
après.
Non, mais
je vais aller très vite sur cette affaire qui peut-être n'intéresse personne. Je voudrais quand même rajouter quelque chose. Être convoqué à une commission d'enquête parlementaire, c'est très contraignant. On ne peut pas s'y soustraire. On peut être réquisitionné chez soi par un agent de la force publique. Si on n'y va pas, on est passible d'une peine d'amende ou de prison.
Et c'est jusqu'à 2 ans de prison.
Et on prête serment et on n'a pas d'avocat. Donc c'est à la fois contraignant et risqué. C'est peut-être pour ça qu'ils sont un peu inquiets à l'idée de voir M. Benalla développer ses arguments et peut-être ses propos peu aimables. Et j'ajouterai une dernière petite chose et j'en aurai fini.
Non, mais je vais vous refaire parler.
Je trouve que le boycott des députés LREM de la commission d'enquête, voilà, qui étaient là avant
trois
l'été.
Sénateurs, trois
oui,
sénateurs.
Et ben voilà, ben ça s'appelle du boycott en fait aujourd'hui, et qui tout d'un coup là ont l'air de se dire aïe aïe aïe, ça va mal, on veut plus que cette commission fonctionne, on va s'en aller. Je trouve ça alors là vraiment piteux.
Pourquoi ce renoncement, François?
Pour conclure, qu'il y a quelques mois, j'avais plus confiance en Alexandre Benalla qu'aujourd'hui.
Oui, on peut conclure que les pressions du château leur font peur.
Bon. Vu que vous êtes du service politique de Paris Match, Virginie Loguier, votre magazine publie cette semaine un reportage photo et texte. Oui. On va le voir à l'image et je l'explique aux auditeurs de France Info. François Hollande, Julie Gayet, main dans la main sur la plage avec ce titre « Le bonheur, c'est maintenant ». L'ancien président et sa compagne acceptent pour une fois de publier ces images de complicité. Ça n'est pas anodin, Virginie Loguier. Ça veut dire que...
D'abord, je voudrais dire que je suis très touchée que vous vous fassiez ainsi la promotion de mon journal. Je m'y attendais.
Ça fait partie de l'actualité.
C'est vrai. Ah bah
bon,
c'est vrai.
Heureuse.
Heureuse. Le bonheur, c'est maintenant.
Mais qu'est-ce
qui
se cache
derrière,
cette...
Eh bien, peut-être la revanche d'un homme qui est parti la tête basse dans le désaveu complet et des électeurs et de sa propre famille politique.
Et qui n'a pas pu disputer l'élection présidentielle.
Qui n'a pas pu se représenter. Premier président à ne pas pouvoir se... Mais j'allais dire physiquement, électoralement, politiquement se représenter, et qui aujourd'hui, allez, 15 mois après, fait un livre qui se vend très très bien, qui dépasse les 100 000 exemplaires, a une compagne avec laquelle visiblement il est très heureux, et ben voilà, il kiffe notre ancien président, il est content, il est heureux, et il tient à le faire savoir, y compris chez nous, et à l'ensemble des lecteurs.
En même temps, c'est très personnel, oui. Hein, je veux dire, ça fait pas un David programme, Boyer. Mais ça fait pas de lui un futur candidat.
Et il occupe la place.
Mais oui. ça dit pas qu'il reviendra en politique un jour occuper un poste de premier plan. Ça dit pas ça pour l'instant. Oui. Ça dit juste que la revanche, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et là, 15 mois après, le temps est venu.
Et alors, Karl-Olive, juste avant cette séquence photo, l'ancien chef de l'État, était à Cherbourg aux côtés de son ancien premier ministre, Bernard Cazeneuve. Il a eu des mots, on s'en souvient, assez durs contre l'actuel locataire de l'Élysée, son ancien collaborateur. Certains, dit-il, ont des comportements magnifiques qui supposent le désintérêt, l'abnégation, le sens du collectif, d'autres qui sont animés par l'individualisme, le cynisme et parfois le narcissisme, comprennent qui pourra. Ce beau document dans Paris Match, on peut dire que François Hollande est toujours dans la vie politique et dans la vie publique, il ne s'en cache pas.
Alors c'est un très très beau document et puis ça complète un petit peu le bonheur est dans le pré qu'on voit également chaque semaine et ça c'est plutôt bien. Très respecté le ministre Cazeneuve. Vous savez, il y a un proverbe africain qui dit « le chameau voit pas sa bosse ». Mais il se rend compte, le président Hollande, de ce qui s'est passé...
L'ex-président Hollande.
Il restera toujours président à vie. Le président Hollande, pendant le quinquennat, il parle d'un rendez-vous raté. C'est pas un rendez-vous raté, c'est un quinquennat totalement raté.
Je rappelle explosion. Que vous
avez... Et je ne suis pas sûr que ce soit uniquement lié au fait d'avoir caché sa liaison avec sa compagne.
Ah oui,
je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ça qu'on lui reproché à la fin de son quinquennat.
Explosion de la dette. Moi, je le vis au quotidien comme mes collègues élus, d'ailleurs de gauche comme de droite, où on se bat pour équilibrer nos budgets... qu'on nous impose, et tant mieux, c'est une gestion en bon père de famille, mais moi ça me fait doucement rigoler. Je pense que dans une vie, il faut savoir entrer, rester, et puis sortir. Sortir pour revenir, bon, tant mieux, en tout cas c'est un président très sympa.
François Hollande est en reconquête parce qu'il n'y a personne à gauche, il n'y a personne au PS.
Moi j'ai été très touché par ces scènes d'amour à Granville.
Il remonte à François pour qu'il lui verse quelques larmes.
Oui, je trouve ça très beau. Mais l'amour à Granville, ça fait pas un recours pour la France.
Et voilà. Oui. Et moi, je rajouterais que j'ai lu son livre, Les leçons du pouvoir, que vous avez peut-être lu aussi, et j'ai été sidérée de voir le récit d'un quinquennat auquel je n'avais pas assisté un quart de seconde. Il revisite complètement son action politique, il la déforme à son avantage, il oublie, pas sous silence, toutes les choses qui ne se sont mal passées. Enfin, c'est une histoire, un conte de fées, quasiment.
Mais pour adoucir le jugement, je pense qu'après avoir beaucoup rigolé sur l'amour à Granville, on aura un bilan réévalué du quinquennat de François Hollande à la lumière de ce qui s'est passé avant et de ce qui pourrait se passer après.
C'est ce qu'il espère en tout cas, il espère.
On va poursuivre ces informés de France Info dans un instant. On va parler de Paris à vélo. On dépasse les autos. C'était une journée théoriquement sans voiture aujourd'hui dans la capitale comme à Bruxelles. Avant cela, 20h40, l'essentiel de l'info, c'est avec vous Léo Téchère.
Et le typhon Mangkhut détruit tout sur son passage. 59 morts aux Philippines, des gratte-ciels qui tremblent à Hong Kong et désormais des vents à plus de 230 km/h dans une province du sud-est de la Chine, le Guangdong. Près de 2,5 millions de personnes évacuées. C'est le cyclone tropical le plus puissant de l'année. Deux anciens premiers ministres au Congrès, fondateurs d'un nouveau parti, Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin, assistent à la naissance officielle d'Agir, le parti Macron compatible du centre-droit. Président Franck Riester fustige la dérive identitaire, autoritaire et populiste de son ancien parti, Les Républicains. Un boycott des sénateurs La République En Marche, ils ne veulent pas auditionner Alexandre Benalla mercredi. La commission d'enquête outrepasse ses fonctions selon le sénateur de Côte d'Or, François Patria, qui pense que ses collègues veulent affaiblir le président et le gouvernement. C'est un peu le Usain Bolt du marathon. Eliud Kipchoge court les 42 km 195 de Berlin en 2 heures, 1 minute était 40 secondes. Le record du monde ne pouvait pas m'échapper, a dit le Kenyan sur la ligne d'arrivée. Il a couru à une moyenne de 21 km/h. Et puis, un chiffre à retenir ce soir, 12 millions, c'est le nombre de visiteurs pour les journées du patrimoine dans 16 000 monuments partout en France. Le château des Ducs de Savoie à Chambéry, le Grand Théâtre de Bordeaux ou encore l'Élysée et ses 20 000 visiteurs, fréquentation similaire aux 5 éditions précédentes.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
Allez, on va aborder un sujet plus léger à présent dans ces informés. On a parlé politique, parlons de la politique de la ville. Tiens, de cette journée sans voiture aujourd'hui à Paris, mais c'était aussi le cas à Bruxelles. Il fallait laisser sa voiture au garage entre 11h et 18h pour se balader sur les avenues à pied, à vélo, en trottinette. Question, François Hernenwein, est-ce que c'était une journée cosmétique ou peut-elle nous aider à changer nos habitudes ?
Tout ce qui contribue à rendre les citoyens sensibles aux enjeux environnementaux est une bonne chose. Alors, après le débat cosmétique, ça a été dit tout à l'heure pendant les flashs d'actualité, il y avait 50% de voitures de moins qu'en période normale. On peut pas considérer que...
Ça n'était pas zéro voiture aujourd'hui, il y avait quand même des voitures.
C'est exactement ça.
C'est beaucoup quand même, 50%.
Si on veut aller au bout de la démonstration... hormis les secours, etc., il faut organiser quelque chose d'un peu plus convaincant et plus spectaculaire que ça. Parce que les enjeux sont réels. Enfin, oui, mais très clairement, on étouffe dans Paris. Après, on peut discuter des raisons, mais franchement...
David Boyer, est-ce qu'il faut faire payer le centre-ville, comme à Londres, par exemple, pour limiter la place des voitures ?
Peut-être, pourquoi pas. Enfin, mais ça dépend quel est réellement l'objectif qu'on poursuit et qu'est-ce qu'on veut précisément atteindre. Mais ce qui est vrai, c'est qu'une journée comme aujourd'hui montre juste très concrètement quelle est la part centrale de la voiture aujourd'hui en centre-ville. Puisque là, c'est juste sur une journée. Logiquement, toute la circulation est interdite, mais on la réduit que de moitié. Donc, on comprend bien que c'est très difficile de s'en passer pour l'instant. Et après, donc, que ça serve effectivement à ce que tout le monde se rende compte de la place que ça a aujourd'hui, très très bien. Mais après, si on regarde ça d'un point de vue purement écologique, au niveau de la pollution, etc., concrètement, ça ne sert à rien. Parce que donc, je ne sais pas si vous avez pu voir cet après-midi, c'est effectivement très très agréable. Il y avait beaucoup moins de voitures, il y avait même plein de rues qui étaient... il faisait très beau, c'était en plus quasiment un été indien très très agréable à Paris. Sauf qu'à partir de 18h, c'était un bordel sans nom, parce qu'en fait, concrètement, tous ceux qui n'ont pas pu se déplacer pendant la journée ont tous commencé à le faire après 18h.
Carl Olive, vous êtes maire de Poissy. Poissy, c'est le fief du groupe PSA, Peugeot Citroën. Vous ne pouvez que défendre l'emploi, le savoir-faire automobile. Comment vous, l'élu, vous inscrivez-vous dans ce mouvement de réduction de la place de l'automobile dans les centres urbains ? Voilà ma question claire et nette.
Eh ben, je vais vous répondre clair et net, Pierre. C'est que, sur le fond, je suis plutôt favorable à ça. À Poissy, on interdit le passage des poids lourds en transit. Mais on va le coordonner. Le problème aujourd'hui, comme sur les expériences précédentes, c'est que ce n'est pas coordonné. C'est formidable, on le voit bien. Regarde, la plus belle avenue du monde. C'est exceptionnel. Sur le périphérique, tout au long de la journée, les taxis déversaient leurs clients au sein même du périphérique. Donc il faut que ce soit coordonné. Mais comme tout, là... Et c'est vraiment ce qui se passe d'ailleurs au sommet souvent de l'État. On nous impose des choses et nous autres, élus de terrain, administrés, citoyens, on doit subir ces conséquences. Je vous donne un exemple. La fermeture des berges sur Seine. À Poissy, nous avons la 13, la 14. Eh bien, le matin, depuis qu'il y a la fermeture des berges sur Seine, les administrés, les piscicaquais, sont bloqués depuis quasiment l'entrée de Poissy sur l'autoroute la plus chère de France. Donc c'est un désastre.
Ma question...
On dévie... Et on déplace un tout petit peu plus.
On ne fait que déplacer les problèmes.
Évidemment, les problèmes.
Ma question, vous êtes obligé de défendre l'automobile parce que c'est de l'emploi chez vous. Je suis obligé de rien du tout, Pierre.
Simplement, je pense qu'il faut que nous soyons pragmatiques. Et oui, je me félicite qu'à Poissy, on ait un pôle mondial de recherche et développement qui est créé. On ait 1500 collaborateurs de la Grande Armée qui viennent à Poissy et pas ailleurs. C'est formidable pour le département. C'est formidable pour la communauté urbaine.
Mais quitte d'ailleurs à trouver des vraies alternatives à la voiture polluante.
J'allais dire, ce matin, nous avons découvert ouvert le dernier véhicule, le DS3 Crossback, avec l'anticipation pour le groupe de Monsieur Tabarès de créer et d'aller vers l'électrique, l'hybride, mais en concertation. Elle est là, la voie de l'avenir. Pas imposer des choses comme ça, où vous avez une voiture, vous ne pouvez pas, vous êtes sans voiture, vous pouvez, etc. etc.
Virginie Le Guay, Paris Match, cette semaine, le Premier ministre à Angers a présenté un plan vélo pour mettre tout le monde au vélo, avec 50 millions d'euros par an pour les collectivités, pour faire des pistes cyclables bien
mieux faire. Je comprends peut-être rien à l'écologie, mais si je réfléchis deux minutes, il s'agissait donc de dépolluer Paris et l'air, on est bien d'accord. Donc là, j'ai vu des photos, c'est charmant, les gens sont en roller, à pied, ils ont l'air contents, il fait beau, c'est délicieux. Mais le périphérique, il a circulé toute la journée, et moi, je ne veux pas raconter de trucs très personnels, mais aujourd'hui, je suis allée au congrès d'Agir à Montévrain, en Seine-et-Marne.
C'était pour votre travail?
Pour mon travail, parce que je travaille le dimanche, moi, monsieur aussi, comme tout le monde, enfin, comme beaucoup. Donc, j'ai fait cette petite route, mais le retour était insupportable, il y avait des embouteillages, les voitures étaient collées, et donc j'imagine que le dioxyde d'azote, qui n'a pas eu, peut-être aujourd'hui, était moins concentré à Paris, il était ultra concentré dès l'extérieur du périphérique. D'ailleurs, j'ai entendu tout à l'heure que vous racontiez dans vos informations que la A13 est bouchée. Donc c'est super. Le dioxyde d'azote, il est quoi? Il est où là en ce moment? Il est juste aux portes de Paris.
Il est chez nous.
Donc, il est chez vous.
Le problème est déplacé.
Il est sur la A13, il est là où j'ai été, moi, la A14, la Seine-et-Marne, partout. C'était complètement bouché.
D'accord, Virginie, il y a des problèmes de méthode, et on l'a dit à l'instant,
on déplace.
Il faut organiser
un peu
le combat environnemental et la lutte contre la pollution.
De façon mais peut-être un peu plus sérieuse.
Voilà, mais d'accord, mais l'enjeu demeure. C'est-à-dire, la voiture individuelle, c'est pas une solution d'avenir. Des villes...
Dans les villes, en tout cas.
Des villes audacieuses, comme Copenhague, ont mis en place un plan de circulation en vélo. À Berlin, c'est quand même relativement facile, etc., etc. Des choses se passent, et ce sont des choses utiles. Parce qu'il faut pas se voiler la face. On peut pas pleurer que Nicolas Hulot démissionne, ne réussisse pas à conduire sa politique, et comme citoyen individu, réclamer que tous les droits qui étaient historiquement les nôtres de consommateurs demeure face aux enjeux.
Je réclame pas, d'ailleurs, à la lettre, j'ai respecté à la lettre, de 11h à 18h, je n'étais pas à Paris avec ma voiture. D'accord. Mais je pense que la dioxyde de carbone que j'ai provoquée, et que tous ceux qui sont partis comme moi ont provoqué, a finalement été beaucoup plus importante que d'habitude.
C'est vrai, mais en fait, pour vraiment régler le problème, je pense qu'il faut le prendre dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il faut d'abord trouver de vraies alternatives. Aujourd'hui, si on prend le cas de Paris, qui est un cas un peu particulier. Systématiquement, le politique va vous dire « mais il y a les transports en commun ». Sauf que je rappelle juste qu'à Paris, il y a certaines lignes de transport en commun qui sont déjà plus que saturées. Donc si on enlève toutes les voitures qui circulent aujourd'hui à Paris et qu'on met tout le monde dans les transports en commun, je vois pas comment ça fonctionne.
Il faut améliorer les transports en commun, ça c'est sûr.
Voilà. Oui, mais donc du coup, c'est dans l'autre sens qu'il faut prendre le problème. C'est-à-dire qu'il faut d'abord trouver les vraies alternatives ensuite dire, comme on a ces solutions-là, arrêtons. Parce que bon, après, je sais pas si vous avez vu à Paris, encore une fois, c'est un cas un peu particulier, c'est la folie des trottinettes électrique là depuis quelques semaines. Je suis pas sûr que alors ça pollue
le
beaucoup
bilan
moins
carbone
sans
de
doute.
La trottinette électrique, alors que... excellent.
Non, mais sur le trottoir, ça pollue sans doute beaucoup moins, mais c'est hyper dangereux et je suis pas sûr que ce soit
plus,
vraiment écologiquement.
Ni les vélos ni personne ne respecte le code de la route.
Sur les
à Paris,
solutions
donc,
alternatives, rien n'est incompatible, hein, parce que pour autant, avec ce qui est mis en place sur le site de production de PSA, on met aussi en place à Poissy un tramway avec une insertion urbaine qui permet d'élargir effectivement la cible.
Fonctionne, mais on ne peut pas contester qu'aujourd'hui, la bataille environnementale est assez centrale. Et les enjeux de préservation de la planète sont
des enjeux. Non, mais c'est sûr qu'on ne peut pas continuer.
Vous avez raison de nous rappeler les fondamentaux.
Voilà.
Heureusement que vous êtes là, François. Heureusement.
Le débat va se poursuivre dans un instant. Les informés de France Info avant cela, 20h50, l'essentiel de l'info. Léo Téchère.
Jean-Michel Blanquer annonce ce soir la suppression de 1800 postes dans l'éducation nationale l'année prochaine. C'est le second degré et les services administratifs qui seront concernés. C'est 0,2% des emplois du ministère, selon le ministre. Des suppressions dans le cadre de la réduction du nombre de fonctionnaires voulus par le gouvernement. 4500 suppressions au total. L'Union européenne responsable d'une folle politique migratoire. Ce sera la stratégie de Marine Le Pen pour les élections européennes dans un peu plus de 8 mois. La présidente du Rassemblement National faisait sa rentrée aujourd'hui à Fréjus dans le Var. Il avait lancé sa voiture contre la foule à Nîmes vendredi pour la première soirée de la Feria des Vendanges. Un homme de 36 ans mis en examen pour tentative de meurtre. Ce fonctionnaire et père de famille n'avait fait que deux blessés légers. Sa voiture avait été stoppée par des barrières anti-attentats. Alerte aux inondations meurtrières dans le sud-est des États-Unis. Déjà 13 morts après le passage de l'ouragan Florence dans les deux États de Caroline. La pluie continue de tomber et les opérations de sauvetage se poursuivent dans l'est du pays. Et puis appelez-le Superman, Kevin Mayer sait tout faire, 100 mètres, lancer de poils, javelot, saut à la perche. C'est le nouveau recordman du monde de décathlon. 9126 points ce soir au Décastar de Talence en Gironde. C'est 81 points de plus que le précédent record.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
Alors c'est la tradition, c'est ma tradition, le samedi et dimanche soir dans ces informés de France Info du week-end. Je profite de ces dernières minutes de l'émission pour vous demander votre regard sur l'actualité. Je profite de votre présence, Carl Olive, maire de Poissy, surtout ancien journaliste, vous êtes toujours journaliste. Vous venez de co-signer et vous publiez chez Ballan « Rendre possible l'impossible » avec ce sous-titre « Ils l'ont fait et vous disent comment ». Expliquez-nous ce qu'il y a de commun entre Didier Deschamps, Serge Klarsfeld, Claude Bébéard, Martine Montel, qui a été la première femme à avoir dirigé la police judiciaire, ou encore Dorine Bourneton, la première femme paraplégique à pratiquer la voltige aérienne. Qu'est-ce qu'ils ont de commun ?
D'abord, c'est une belle rencontre avec Anno Buschurberg, qui est professeur associé, qui travaille sur la psychologie de la communication et les clés de la performance. Et en fait, ce projet qu'on travaille depuis 3 ans est venu de jeunes qui venaient nous rencontrer et à qui on disait, comme les journalistes peuvent le dire, comme les sportifs peuvent le dire, mais ce qu'il faut, c'est avoir confiance en vous. Ok, monsieur ? Ok, madame ? Qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance ? Comment on fait pour avoir confiance ? Ben, la réponse, elle est là. Je pense que c'est un message positif. Quel est le point commun, vous l'avez dit, Pierre, à juste titre, entre Didier Deschamps ou Claude Bébéard, qui va absorber en 3 jours l'UAP qui était coté alors que lui, sa petite boîte d'assurance, ne l'était pas ? Entre Pierre-Ambroise Boss, qui démarre un championnat du monde en dernière position et il termine premier ? Entre Dorine Bourneton, qui à 16 ans, malheureusement, perd l'usage des membres inférieurs et qui se bat pour permettre aux handicapés de pouvoir voler, et elle réussit aujourd'hui des prouesses exceptionnelles. D'abord, c'est la détermination. C'est effectivement la confiance en soi. C'est aussi le fait d'être finalement totalement indolore à toutes les critiques qui peuvent y avoir et qui fait qu'un jour, bah, on devient presque un porte-bonheur. Je prends le cas, par exemple, de Didier Deschamps.
Il n'y a pas un peu de chance parfois aussi quand même ?
Pour moi, le travail entraîne la réussite et la réussite entraîne la chance.
Mais pourquoi il n'y a pas Emmanuel Macron dans votre livre
Il a fait la préface. Hein. Bon, mais bah, sans parler politique, il faut quand même regarder qu'à un moment donné, il a choisi d'y aller, il y est allé. C'est presque comme au bowling, hein. C'est presque un strike. Hein. Il ne restait plus rien autour. Hein.
Carl Olive, vous dites qu'il faut être acteur de sa vie. On est tous d'accord, mais est-ce que c'est possible quand on vient, par exemple, d'un pays en guerre, quand on vient d'un milieu défavorisé, quand le père ou la mère est absent, lorsqu'on est dans une cité privé de transport, par exemple, ou privé de services de public, est-ce qu'on peut y arriver ? Est-ce qu'on peut toujours être acteur de sa vie ?
Écoutez, je prends l'exemple, par exemple, de Zaya Ziouani, qui est une des premières femmes chefs d'orchestre, qui effectivement, malheureusement, par rapport aux clichés, malheureusement, par rapport à cette diversité qui était un petit peu stigmatisée, a réussi, à force de détermination et de volonté, et aussi d'accompagnement, justement, par le père dont vous parlez, à devenir aujourd'hui quelqu'un qui est juste incontournable. Je prends le cas de Philippe Conticini, qui est aujourd'hui un des plus grands chefs cuisiniers, qui a créé les Vérines, qui était en surpoids, qui a toujours été stigmatisé par rapport à sa surcharge pondérale. Ça, ce sont vraiment des messages très positifs. Ça fait du bien, c'est frais. Le président parle d'une ode à la liberté. Moi, je suis ravi d'envoyer un message à ces jeunes, notamment ces jeunes étudiants, encore une fois, qui se disent « Merde, c'est pas possible, on peut pas y arriver. » Si, on peut y arriver. Simplement, faut arrêter de se polluer en se mettant soi-même des barrières, parce que finalement, il y a un impossible.
Que pour les jeunes, hein. Ça marchera pas pour moi.
Si, c'est pour tout le monde, parce que je prends le cas du préfet Parisot, le préfet qui est myopathe et qui fait un travail également remarquable. Et là, on a des vraies leçons de vie. À côté, ça nous relativise, pardonnez-moi, toutes ces futilité, et ça, je pense que ça fait du bien. En tout cas, c'était l'objectif de cet ouvrage.
François Hanenwein.
Mais est-ce que vous les faites témoigner aussi des rencontres qu'ils ont faites, ceux qui les ont aidés ? Parce que la confiance est essentielle, mais il y a parfois des gens qui, dans la vie, aide ceux qui traversent des moments difficiles à avancer. La rencontre, c'est aussi essentiel que la confiance.
C'est exactement
on
cela.
On n'est rien sans les autres.
C'est voilà. Exactement
on
cela.
On n'est rien sans les autres.
Il y a des rencontres qui ont été faites, il y a de l'accompagnement, j'irais presque des référents qui sont là. Parfois, ça peut être de la famille. Parfois, ça peut être un Jean-Claude Suodo, par exemple, pour Didier Deschamps, ou un papa et une maman comme Kylian Mbappé. Mais il n'y a pas que des sportifs. Et effectivement, ça permet en tout cas de progresser et je dirais de se révéler dans ces différentes catégories.
Comme on arrive à la fin de l'émission, François Hanenwein, parlez-nous de la une de La Croix demain, s'il vous plaît.
La une de La Croix sera consacrée à un sujet grave et difficile, la question des ventes d'armes dans les démocraties. Est-ce qu'il est possible de soutenir comme ça une industrie de l'armement à l'exportation, vendre des armes qui tuent au Yémen ou ailleurs?
David Boyeri, votre rendez-vous économie demain sur France Info TV.
Oui, alors France Info TV, oui, exactement, dans la matinale.
7h12,
8h21. Exactement, bravo. Ce sera l'agenda de l'écho et je parlerai notamment du plan hôpital, qui sera une des grandes actualités économiques de la semaine prochaine.
Virginie Loguet, juste un petit mot pour terminer. Il y avait un petit coup de cœur,
Coup de cœur qui est tout à fait différent. Une pièce de théâtre à laquelle j'ai assisté il y a quelques jours, La légende d'une vie de Stéphane Zweig au Théâtre Montparnasse. Une distribution un peu au début qui m'a surpris avec Nathalie Dessay, l'ancienne cantatrice, et Gaël Giraudot, le fils de Bernard Giraudot, oui, que je n'avais jamais vu. Au résultat, c'est une pièce formidable que je conseille à tout le monde d'aller voir. Ça se passe à Vienne en 1909.
Allez, je vous remercie.
19, pardon.
Je vous remercie d'être venu dans ces informés. Je vous remercie d'être venu dans ces informés de France Info. Je vous donne un rendez-vous le 8h30 politique demain matin sur France Info, radio et télévision, avec Nicolas Dupont-Aignan, le député de l'Essonne, président de Debout la France. Demain, 20h, 21h, le retour des informés avec Jean-François Akili. Merci de votre fidélité.